tient-il, comme on dit habituellement. Et donc, on montrait peut-être plus immédiatement l'action directe du Christ dans le sacrement. Ici, parce que nous sommes dans un monde moins chrétien, qui a besoin de recevoir une éducation et une pédagogie plus explicite, en toute pédagogie, on distingue mieux les moments. C'est le propre de la pédagogie. De mieux distinguer. Quand vous donnez globalement, personne ne comprend rien du tout. Là, vous êtes obligé d'analyser davantage. Et bien, de fait, je dirais, la messe est plus pédagogique qu'avant. Ça, c'est très net. Alors, on peut dire qu'elle est moins contemplative. Tout dépend de vos intentions. Et c'est sûr, elle exige, c'est toujours ce que je dis quand je suis en face de ceux qui sont à défendre l'ancienne messe et en disant que la messe est aujourd'hui, tout simplement, elle exige du prêtre une plus grande intention pour maintenir l'unité. Ça me semble. Parce qu'elle est plus pédagogique, parce qu'elle est plus pédagogique, elle insiste davantage sur les différents moments. Vous voyez, la première partie de la messe, par exemple, ils disent beaucoup plus en lumière qu'avant. C'est la pédagogie de la parole de Dieu. La pédagogie de la parole de Dieu qui nous conduit à l'offrande du travail, du fruit du travail des hommes. Ce fruit du travail des hommes étant offert, Dieu va l'agréer. Et nous aurons le sacrement qui restera toujours, le sacrement sera toujours la consécration, l'essentiel du sacrement. Et la conséquence, le fruit, la finalité reste en nous. Alors, je crois que c'est la raison pour laquelle. Alors, je dirais que l'offrande matérielle du pain, c'est l'offrande en même temps, vous voyez, de tout le fruit. J'aimerais mieux dire que c'est l'offrande du fruit du labeur des hommes. C'est en réalité l'offrande matérielle des hommes. C'est sûr. Point de vue de l'analyse à l'intérieur même du sacrement. Donc, quelle est l'offrande offerte par le prêtre à l'offertoire? Je mets donc matériellement, c'est cette offrande, en vous deux. Donc, selon l'unité d'intention, cette offrande est offerte en vous deux. En vous deux. Donc, je ne peux pas la couper. C'est bien évident. Donc, il faut bien dans l'unité d'intention, bien que, de fait, les paroles sont plus explicitement vis-à-vis du pain et du vin offert, bon, comme fruit du travail, l'intention est tout entière ordonnée, évidemment, à la consécration et à la communion. Comment faut-il comprendre que les chrétiens sont une offrande spirituelle? Ils sont une offrande spirituelle parce que, de fait, le mystère de la croix est inséparable du mystère de la compassion. Autrement dit, le mystère de la croix est inséparable du mystère des chrétiens lié à la croix du Christ, qui achève ce qui manque à la passion du Christ. Et il serait beaucoup plus difficile d'expliquer ça s'il n'y avait pas le mystère de la compassion. Pour moi, le mystère de la compassion jette une très grande lumière sur l'unité du sacrifice de la croix et du sacrifice des fidèles. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et on comprend très bien, ce n'est pas du tout quelque chose d'accidentel que Marie soit présente. Ce n'est pas du tout quelque chose d'accidentel. C'est une volonté explicite de Dieu. Pour que nous comprenions bien, ça aurait pu très bien se réaliser autrement, c'est sûr. Et il y aurait toujours eu l'offrande de la croix, l'offrande spirituelle. Mais ça nous aide à mieux comprendre. L'offrande spirituelle, c'est que nous sommes engagés avec le Christ dans la même action que le Christ. Alors, nous sommes engagés dans la même action du Christ parce que tout ce qui regarde le Christ regarde les membres du Christ. Et tout ce qui regarde les membres du Christ regarde le Christ. Tout ce que Jésus fait nous est donné. Et spécialement quand il s'agit évidemment de ce qui achève toute sa vie. L'offrande de la croix, c'est toute sa vie qui est engagée là, c'est son œuvre. Et donc c'est l'œuvre de tous les chrétiens. Donc comment faut-il comprendre que les chrétiens sont une offrande spirituelle? Comment comprendre que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire? Par le Christ, c'est-à-dire par le sacrement du sacrifice de la messe, qui est le sacrifice de la croix. Alors, étant unis au Christ, nous devenons avec Jésus, par l'Esprit Saint, une éternelle offrande à ta gloire. Qui est le prêtre de cette offrande spirituelle? Quel est le prêtre de cette offrande spirituelle? Le prêtre de cette offrande spirituelle, c'est, j'allais dire, le prêtre et tous les fidèles. C'est bien évident. C'est l'offrande de l'Église. C'est pour ça que je prends le mystère de la confession. C'est le prêtre. Parce que cette offrande spirituelle ne se réaliserait pas avec cette intensité et cette actualité s'il n'y avait pas l'offrande sacramentelle. L'offrande sacramentelle, le prêtre, c'est le prêtre ayant reçu l'ordre, ayant le pouvoir sacerdotal. Mais il est là au nom de tous les fidèles. Il est là in persona Christi et il est là comme représentant de tous les fidèles. Donc, on peut dire que c'est vraiment le prêtre de cette offrande spirituelle, c'est en premier lieu le prêtre qui réalise le sacrifice sacramentel et en union tous les fidèles. C'est comme ça qu'on peut assister à la messe qu'en étant actif. C'est bien évident. On n'assiste pas matériellement. On participe à l'offrande. On est lié à l'offrande. Comment comprendre ces paroles du prêtre après la consécration? Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance. Accepte-la. Va-t-on demander cela s'il s'agit du Christ? Il s'agit du Christ et de l'Église, inséparablement. Sacrement de l'Église, sacrement du Christ. Premièrement, le Christ est lié à l'Église. Les sacrements sont le lien. C'est pour ça que c'est les sacrements de l'Alliance. C'est pour ça que c'est les sacrements du Testament. C'est lié, il faut toujours partir de la scène, c'est pas uniquement la croix. C'est la croix, mais c'est en même temps l'Église liée à la croix. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est le Christ et Marie. Donc il y a les deux qui sont liés. Et c'est inséparablement lié. C'est le propre du mystère des sacrements. Les sacrements le sacrifice de la messe. Oui.
Qui cause la compassion, donc le sacrifice de l'Église, ou est-ce qu'il ne fait qu'être le sacrement de ce sacrifice?
Il est les deux. Il est les deux, puisqu'il est le signe du sacrifice du Christ qui a été lié à Marie et qui est premier. Et donc, je ne peux assister vraiment à la messe que si je vis de la croix et de la compassion. Et en même temps, la messe me fait vivre de ce sacrement et de la compassion. Donc il est les deux. C'est un sacrement des vivants. Hein. Et c'est, je crois, la signification profonde de l'Eucharistie. C'est le sacrement des vivants. Donc ça présuppose que vous vivez déjà de la restantum. Or, la restantum, c'est quoi? C'est le Christ vivant dans l'Église. Et le Christ vivant dans l'Église, c'est le Christ vivant dans l'Église, comme il a vécu en Marie. Donc, le mystère de la compassion.
On peut donc vivre de la compassion sans la messe.
Ah, tout à fait, heureusement, hein, mystiquement.
Alors, quelle est la causalité de la messe dans la compassion?
C'est les sacrements. C'est ce qu'on a essayé de faire, la sacramentalité. C'est-à-dire le signe et un signe qui en même temps est efficace. Alors, ça revient à ce qu'on avait dit. Comment les sacrements, d'une certaine manière, ne sont pas nécessaires, puisque ce n'est pas les sacrements qui nous sauvent, c'est le Christ qui nous sauve. Et comment les sacrements sont une surabondance pour notre vie de foi. Parce qu'ils signifient, et en signifiant, ils opèrent. Et donc ils sont pour nous une pédagogie divine. Et la pédagogie de la croissance. Ça c'est la pédagogie de la croissance. C'est pour croître. C'est le grand coup de fouet qu'on donne pour nous. Aller plus vite. C'est pourquoi le sacrement apporte par son signe et l'efficacité du signe un appel à une croissance.
En raison de cela, il pain et le vin sont offerts comme signes.
Oui, c'est pour ça.
Chose qui est offerte que...
C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas le séparer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans l'intention. Dans l'intention. Non. Ça, je n'oserais pas le dire. Prenez les paroles du sacrifice. Je crois que l'Église a voulu. Avant, je serais d'accord avec vous. Oui. L'offertoire depuis Saint, l'offertoire dominicain avant, c'est très nettement, c'est explicitement dit. Or, de fait, je crois, pour une raison pédagogique, il me semble, on a davantage. Mais c'est évident que c'est lié selon l'intention. Dans l'intention que c'est lié. Et c'est inséparable de cela. Puisque les sacrements sont d'ordre d'intentionnalité divine. Ce que j'ai dit, c'est ça qui est très important à souligner. Je crois que j'ai beaucoup souligné au début. Que les sacrements, la sacramentalité, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. C'est pas chosifié. C'est une intentionnalité divine. Donc si c'est une intentionnalité divine, l'unité ne peut pas se séparer d'intention. Ça fait très mystérieux. De sorte que ce que vous dites, c'est très vrai, c'est que déjà c'est lié à cela. Mais faisons attention, c'est le signe du pain et du vin. Et le pain et le vin, c'est le fruit du travail. Il s'est dit explicitement. Oui.
Donc c'est le travail des hommes.
Le fruit du travail des hommes, qui est la matière. Mais cette matière est offerte en vue d'eux.
Ce fruit-là, ce pain, c'est le pain comme signe. Ça revient
même du sacrement.
Oui, mais c'est l'offrande du prêtre.
Oui, l'offrande du prêtre fait partie de la messe. Donc, l'offrande du prêtre est prise par la sacramentalité. Ce n'est pas un acte en dehors de la sacramentalité, puisque tout dans la messe est sacramentalité. La sacramentalité prend un accent unique au moment de la consécration, principal, mais tout est de la sacramentalité, vous êtes d'accord? Donc si c'est dans la sacramentalité, la question posée, et tout de suite, on répond tout de suite. Parce que si je prends ce pain et ce vin, du fait même que le prêtre le prend à l'intérieur de la messe, et l'offre. Ce pain, c'est le fruit du travail des hommes, mais c'est le fruit du travail des hommes en vue d'être offert pour que ce pain et ce vin expriment le don du Christ à travers le travail des hommes. Et que ce soit l'offrande du Christ. Donc les deux sont liés. Je ne peux pas les séparer. Parce que je suis dans l'ordre de l'intentionnalité. D'une intentionnalité divine. Je pourrais le séparer si de fait c'était séparé d'intentionnalité. Alors j'analyserai. Je ne peux plus analyser. Je suis dans un mouvement d'intentionnalité. Et ce mouvement d'intentionnalité exprime ce point de vue-là.
Ce qui est formidable, c'est le chapitre 6 de Saint-Jean, où vous disiez le travail, le travailler pour ce poste.
Exactement.
Le travail a un sens.
Exactement. Le travail, selon l'intention déjà des hommes, mais ici c'est encore plus proche. Parce que Jean, le Seigneur, dans Saint Jean, s'adresse aux hommes. Tandis qu'ici, le geste que fait le prêtre, c'est dans la sacramentalité de l'Eucharistie. Donc il est pris dans l'intention profonde de l'institution de l'Eucharistie, où Jésus a pris du pain et du vin pour la première fois. Et ayant pris du pain et du vin, il a fait que ce pain et ce vin prenaient une nouvelle signification au moment de la consécration. Et dès qu'il l'offre, ce pain et ce vin, on n'aurait plus le droit, si vous voulez, là, au sens profond. Hein. Après l'offertoire, je n'ai plus le droit de considérer ce pain et ce vin comme un autre pain. Je n'ai plus le droit. Ce serait un manque à l'intention profonde, ce pain et ce vin n'est plus intentionnellement. Et alors c'est là où jouerait la fameuse chose, vous voyez, de la manière dont Schlebeck voulait exprimer le point de vue nouveau de la transsubstantiation, quand il parle de la transsignification, de la transfinalité. Je veux dire, à partir de ce moment, je peux dire qu'il y a transsignification et transfinalité. Et ici, transsubstantiation. Mais ce que dit Schlebeck serait vrai pour ça. Le premier moment. Alors là, je suis d'accord. Parce qu'il est offert dans une intention donnée. Et donc ce n'est plus le pain habituel. Mais il n'est pas transsubstantiel. Il ne sera qu'à la consécration. Et c'est intéressant parce que ça peut mieux faire comprendre la position de Schulebeck. C'est pas étonnant, on est dans une philosophie phénologique, où l'ontologie disparaît. Alors, si vous mettez entre parenthèses l'ontologie, l'aspect ontologique du sacrement, vous ramènerez tout à cette première intentionnalité. Une, deux, trois. Et alors, ce premier moment, qui est la condition du reste, va déterminer le reste. Dans une perspective de pure phénologie. Dans une perspective d'une phénologie qui est assumée par une philosophie, le premier moment est de l'ordre de la disposition, le second moment constitue et le troisième moment achève, finalité. Oui. Tandis que si je suis dans une perspective où je ne vois plus cet aspect philosophique radical et profond, le premier moment qui conditionne va déterminer. Et donc, je vais expliquer tout par le point de vue de la transsignification et de la transhumanité. Oui. Je crois que ça fait mieux comprendre, il faut toujours essayer de mieux comprendre les erreurs qui ont pu être dites. Ça fait partie de, à la fois de saisir comment ils ont voulu dire quelque chose qui existe, ça, c'est vrai, ça fait partie du sacrement. Et en même temps, comprendre que ce n'est pas suffisant. Alors, pourquoi dans le canon romain, la prière pour les vivants précède la prière pour les morts ? Suit la consécration. Mais pardon. Pourquoi dans le canon romain, la prière pour les vivants précède et la prière pour les morts suit la consécration ? Parce que les vivants doivent coopérer. Et les morts ne coopèrent plus. Ils ne reçoivent que les conséquences. Oui, c'est la raison. Vous demandez à tous les vivants de coopérer. Et ils coopèrent tous. C'est l'action de toute l'Église. Oui, exactement. Mais oui, c'est que l'offrande est orientée directement. Oui. Elle est orientée directement vers la consécration, et alors on fait appel à tous les vivants, même ceux pour lesquels spécialement on offre le sacrifice, on fait appel à tout ça, et ils coopèrent dans le mystère de la messe. Tandis que les morts ne coopèrent pas, ils reçoivent les effets. Oui. Ça ne veut pas dire que l'ordre, puisque c'est changé, alors on considère que les vivants ne coopèrent plus, alors c'est... C'est pour ça que je maintiens l'unité intentionnelle de toute action. Mais il y a une raison, ça c'est sûr. Ça a été très très réfléchi, hein, la messe de Saint-Pie-V. Très très réfléchi. Et elle a été très réfléchie au niveau théologique, dans la lumière de Saint-Thomas. Je ne dis pas que l'autre n'a pas été réfléchi, c'est pas ça, mais... C'est pas le même genre. Enfin, on n'a pas le même type de réflexion aujourd'hui que du type du Moyen-Âge. Ça, c'est sûr. On a aujourd'hui un type de réflexion, vous voyez, plus pédagogique et moins théologique. Tandis que au Moyen-Âge, on avait un aspect beaucoup plus théologique. Bon, continue. Vous avez toujours dit que la théologie doit être complétée sous l'angle du sacrement. Comment le sacrement ne concerne pas directement, comme le sacrement ne concerne pas directement l'intelligibilité des mystères révélés, ceci revient à la parole, mais la manière dont ils nous sont révélés pour en vivre. Ne faut-il pas préciser que la sacramentalité complète la théologie dans l'ordre de son enseignement ? Lequel concerne particulièrement la catéchèse et la théologie spirituelle. Bon, je suis parti de cette idée, hein, de la parole et du geste. Et je suis parti de cette idée de la parole et du geste parce que c'est à l'intérieur même de l'écriture. À l'intérieur même de la révélation, c'est pour ça que il faut reprendre la source, il faut reprendre l'origine. À l'intérieur même de la révélation, il y a parole et geste. C'est très net. Parole révélée, geste révélé. Alors, si je réfléchis sur la communicabilité, ce qui est communiqué par la parole et ce qui est communiqué par le geste, je vois que la parole communique davantage l'intelligibilité et le geste, qui est un signe pratique, est plus immédiatement relié à l'affectivité ou à l'efficacité. C'est le propre du geste. Le geste est plus lié, il est lié à la main. Et l'autre, il est lié à la langue, à la parole, à la voix. Donc, on voit comment il peut y avoir la théologie scientifique et la théologie mystique. Il est bien évident que la théologie de l'Église, au point de vue scientifique, est une partie beaucoup moins, j'allais dire, plus ténu que la grande théologie scientifique du mystère de Dieu, du mystère de la très sainte Trinité. Parce que qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans l'Église? Tout est dit dans le mystère du Christ. Puisque tous les principes sont dans la tête. Et donc l'Église explique le complément, la complémentarité. Et cette complémentarité va être explicitée dans la théologie des sacrements. Oui. Alors, il est évident que cette complémentarité est très importante pour nous. Oui. Et cette complémentarité qui est donnée dans le point de vue de la sacramentalité, au point de vue pratique, est très importante. Pratique des sacrements est essentielle aux chrétiens. On ne peut pas dire, moi je suis un spéculatif, je ne m'intéresse qu'au point de vue de l'intelligibilité, les sacrements, pas tellement intelligibles, pas tellement intelligents, surtout la manière dont c'est pratiqué, donc je m'en dispense. C'est une réaction qu'on entend très souvent dans des milieux intellectuels. La parole de Dieu, l'explication théologique, oh, très très bien ça. Mais les sacrements s'ennuient. Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans une messe? Ouais, si le sermon était bien encore. Avant, il n'y a pas grand-chose, alors vraiment, on n'a rien. Donc, et c'est vrai, c'est très vrai que le propre des sacrements, ce n'est pas être, au sens strict, un enseignement. C'est une pédagogie affective pour nous aider à entrer dans le mystère. Alors, cette pédagogie, elle enseigne, parce qu'elle est encore les sacrements de la foi. Elle enseigne, parce que les sacrements nous dépassent, parce que le mystère chrétien nous dépasse tellement que nous avons besoin d'avoir deux voies d'accès. La voie d'accès de la parole et la voie d'accès du geste. Puisque le mystère est au-delà de la distinction que nous faisons entre lumière et amour. Il est au-dessus. Et donc, on sait très bien que la lumière ne pourra jamais expliciter entièrement, le mystère de la parole et le point de vue de la théologie scientifique, ne pourra jamais expliciter entièrement le point de vue du mystère. Et donc, si le mystère nous est communiqué par les gestes, même les gestes nous enseigneront. Mais le côté principal du geste, c'est le côté pédagogique. Pédagogie affective. C'est développer en nous, avant tout, les vertus théologales, de foi, d'espérance et d'amour. Et j'allais dire avant tout l'amour. Quand il s'agit du sacrement de l'Eucharistie, c'est le point de vue de l'amour qui est en premier lieu. Parce que le sacrement de l'Eucharistie, comme le souligne saint Thomas, sola fide. Donc au point de vue intelligibilité, c'est très pauvre comme intelligibilité pour celui qui ne rechercherait que cela. c'est extrêmement riche par le point de vue de l'amour. Et alors, par le point de vue de l'amour, il y a une entrée plus profonde dans l'intelligibilité du mystère du Christ, mais c'est par le point de vue de l'amour. Sauf que je crois, je reprends, comme le sacrement ne concerne pas directement l'intelligibilité des mystères révélés, ceci revient à la parole, mais la manière dont ils nous sont révélés pour en vivre, ne faut-il pas préciser que la sacramentalité complète la théologie spéculative, je présume, puisque ça fait partie de la théologie, ce que nous voyons, dans l'ordre de son enseignement, je dirais dans l'ordre de sa pédagogie. Il y a enseignement et pédagogie, vous voyez, si et éducation. Il y a une éducation, les sacrements sont du côté de l'éducation, beaucoup plus. Et c'est pour ça que nous sommes beaucoup plus sensibilisés dans notre monde d'aujourd'hui à l'aspect enseignement. Alors, lequel concerne particulièrement la catéchèse et la théologie spirituelle. Donc ça fait partie essentielle de la révélation, de fait. Ça aurait pu ne pas faire partie, mais ça fait partie essentielle de la révélation, parce que de fait, la révélation qui s'achève avant le Christ implique parole et geste, et la révélation qui s'achève dans le Christ implique parole et sacrement. Il y a les deux. Mais dans ce regard sur la révélation, je peux dire que la parole nous met avant tout en présence de l'intelligibilité du mystère, tandis que le signe nous montre avant tout la communication aimante du mystère. C'est avant tout ça. C'est la communication aimante du mystère. Dieu se communique par sa lumière et par son amour. Comme nous-mêmes, nous communions aux autres par la parole et par le geste. Suite à ce que nous avons dit précédemment du sacrement de l'ordre, ne doit-on pas conclure que le sacerdoce ministériel est très précisément le sacrement du Christ agissant dans son corps ecclésial ? Du Christ, source des autres sacrements. Oui, on peut le dire. C'est pour ça que c'est lié au Christ législateur, source des sacrements. Et très précisément, le sacrement du Christ agissant dans son corps ecclésial, on agit in persona Christi, du Christ, source des autres sacrements. Le prêtre est à la fois instrument du Christ, c'est-à-dire serviteur et envoyé du Christ, et père. J'en mettais ami avant. J'en mettrais un métaxu intermédiaire. Je mettrais instrument, ami, père. Vous voyez ? Parce que c'est par le point de vue de l'amitié, je crois qu'on comprend mieux in persona Christi. In persona Christi montre que ce n'est pas uniquement de l'ordre de l'instrumentalité. C'est de l'ordre de l'instrumentalité, radicalement. Mais il y a quelque chose de plus, cet ordre instrumental est en même temps un ordre d'amitié. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Donc, c'est les secrets qui sont communiqués. Et à cause de cette amitié, on a toute l'autorité. L'ami jouit de l'autorité de son ami. Or, l'autorité du Christ est une autorité paternelle. Pourquoi ? Parce que, justement, il est un avec le Père, et il agit avec toute l'autorité du Père. De sorte que je crois qu'il faut maintenir les trois. Il faut maintenir instrument, amitié, père. Oui. Donc le prêtre est à la fois instrument du Christ, c'est-à-dire serviteur et envoyé, et père, c'est-à-dire source de vie et de nourriture. Le prêtre est donc l'instrument conjoint du Christ. Instrument conjoint, attention, parce que instrument conjoint est réservé au point de vue théologique à l'humanité sainte du Christ. Alors, il faut mettre entre guillemets, donc ami, oui, j'aime mieux dire ami qu'instrument conjoint. Je dirais, il est l'instrument qui est l'ami. Selon son caractère sacramentel, il est le Christ dans son humanité sainte, oui, selon son caractère sacramentel, selon... Il est le Christ dans son humanité sainte, en tant que celle-ci est l'instrument conjoint de sa divinité. Le Christ est l'instrument conjoint de la divinité. Je dirais que je vois ce qui est dit, c'est que dans l'ordre de l'intentionnalité sacramentelle, soyons donc très très précis, dans l'ordre de l'intentionnalité sacramentelle, donc bien saisir ce que c'est, c'est-à-dire dans l'ordre du sacrement comme tel, qui est une intentionnalité divine. L'analogie que nous avons prise au début, pour essayer de comprendre ce que c'est que la sacramentalité. Parce que je crois que c'est très important. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est très très important. Parce qu'on voit très bien que les objections qui se font, c'est pour bien distinguer le point de vue du sacrement de la réalité physique. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut bien distinguer le sacrement de la réalité physique. Le sacrement n'est pas une réalité physique. Il est bien plus. Il est d'ordre divin. Mais il est intentionnel. Donc, je ne m'arrête pas au sacrement. Puisque les sacrements sont des signes et des moyens et un instrument. Donc je n'y arrête pas. Le sacrement est fait pour m'unir plus au Christ. Donc comprenons que l'humanité sainte du Christ est instrument conjoint dans l'ordre réel ontologique. Tandis que le prêtre ne peut pas être dit instrument conjoint tout court, je dirais il est l'ami. Selon une intentionnalité de la grâce, il est l'ami et il est instrument conjoint dans l'ordre sacramentel. C'est bien dit, selon son caractère sacramentel, mais je dirais dans l'ordre sacramentel, plutôt que selon son caractère sacramentel. C'est plus exact parce que ça exprime l'action qu'il réalise dans cet ordre donné. Ne faut-il pas affirmer par conséquent que le prêtre hérite sacramentellement de la grâce capitale du Christ tête. Grâce qui fait de son sacerdoce un sacerdoce royal. C'est évident qu'il hérite du sacerdoce royal. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il hérite sacramentellement de la grâce capitale du Christ? Je ne dirais pas ça. Je ne crois pas. Parce que s'il héritait sacramentellement du caractère saint, on n'aurait plus cette division qu'il faut quand même essayer de maintenir. La grâce capitale de la tête, elle est unie. De là, il y a une double participation. Une double participation. Participation de la grâce habituelle, de tous les baptisés, de tous les chrétiens, de tous ceux qui ont un désir de faire la volonté de Dieu et d'être des âmes de bonne volonté. Paix aux âmes de bonne volonté. Donc, la grâce habituelle. Et puis, il y a les sacrements. Les sacrements sont un ordre intentionnel en vue de... C'est vrai, ils sont simplement en vue d'eux. La grâce capitale du Christ domine. Et comme on dirait dans un certain style, vous savez, néoplatonicien, c'est imparticipable. C'est unique. Parce que c'est la grâce du Fils. Hein? La grâce capitale du Christ, si je regarde dans la grande théologie de saint Thomas au point de vue traité du Christ, la grâce capitale du Christ, elle est effet propre de l'union hypostatique. Donc, elle est imparticipable, comme telle. Elle ne peut pas être participée. Elle est le caractère propre du Christ en tant qu'il est fils bien-aimé. Alors, c'est le sacerdoce du fils bien-aimé. Ça, c'est très vrai. En tant qu'il est le sacerdoce du Fils bien-aimé, nous participons à ce point de vue du mystère, mais je n'oserais pas dire participation de la grâce capitale. Je dirais, in persona Christi, au point de vue d'amour d'amitié, avec l'autorité paternelle du Christ. Le prêtre, en tant qu'il est uni au Christ comme instrument du Christ, comme instrument de grâce, est Père. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il est... Oh, ça faudrait y réfléchir. Hein. Ne faut-il pas affirmer par conséquent que le prêtre hérite sacramentellement de la grâce capitale du Christ-tête, grâce qui fait de son sacerdoce un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal est lié au sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé qui fait que ce sacerdoce est royal. Ce n'est pas la grâce capitale au sens propre. C'est parce qu'il est Fils bien-aimé qu'il est roi. Alors, tous les effets de la grâce capitale du Christ impliquent une participation à sa grâce royale, parce qu'elles proviennent du Fils bien-aimé. Oui. Ceci nous ferait comprendre comment le sacerdoce ministériel implique, mais à titre de propriété, la charge de gouvernement des âmes et de la communauté ecclésiale. Ceci expliquerait la hiérarchie, on va le voir, on n'a pas encore vu ça, mais je pensais le voir, c'est la question de l'ordre qui est impliqué. J'ai voulu prendre la finalité en premier lieu, puisque nous nous plaçons dans une perspective de théologie plus mystique, alors on prend le point de vue de la sacramentalité en fonction de la finalité, et une fois qu'on a bien saisi la finalité, on voit comment le point de vue le sacrement d'ordre, c'est le sacrement d'ordre. Le sacerdoce fait partie d'un sacrement d'ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce point de vue-là ? C'est ce que, sur lequel saint Thomas insiste beaucoup. Saint Thomas commence par ce point de vue-là, et c'est normal. C'est le point de vue de l'intelligibilité la plus grande, au point de vue théologie scientifique. Tandis qu'en théologie mystique, on voit d'abord le point de vue de la finalité. C'est pour ça que j'ai vu d'abord le point de vue de la finalité. Ensuite viendrait ça. Alors, la question de l'ordre. Je termine. La question de l'ordre est à l'intérieur. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut essayer de voir sur quoi va s'établir cette question de l'ordre. Ceci nous ferait comprendre comment le sacerdoce ministériel implique, mais à titre de propriété, la charge de gouverner, de gouvernement, des âmes et de la communauté ecclésiale. Ceci expliquerait la hiérarchie évêque, prêtre, hiérarchie, diacre. Hiérarchie qui ferait donc formellement partie du sacrement de l'ordre, mais à titre second. Non, pas à titre second, à titre essentiel. C'est pas à titre second. À titre essentiel, mais pas le primo modo. C'est le secondo modo. Mais c'est essentiel. Si je prends la division des quatre catotos, vous comprenez tous, n'est-ce pas, des quatre liens de nécessité. Les liens de nécessité sont différents. En vue du caractère royal de son sacerdoce, le prêtre représenterait alors réellement toute l'Église qu'il récapitule sacramentellement en lui, et comme il agit in persona Christi, on doit dire que le prêtre unit réellement en lui le sacrifice du Christ et celui de l'Église, qui est incorporé au Christ, transsubstantié en lui. Bon, nous le verrons la prochaine. Est-ce que ce n'est pas ça l'évêque ? Plus que le prêtre. Mais c'est là la question. Comment distinguer le point de vue du sacerdoce du point de vue de l'épiscopat ? Il y a une distinction quand même très importante sur laquelle Vatican II insiste beaucoup, que le Concile de Trente insistait moins et que saint Thomas insistait moins. Donc il y a une explicitation qui se fait au niveau proprement de l'Église pour bien distinguer que représente le sacerdoce. Nous sommes partis du pouvoir sacerdotal. Le sacerdoce et l'épiscopat. Alors, c'est à l'intérieur du sacerdoce qu'il faut découvrir cela. Et donc, à l'intérieur du sacerdoce, pris comme ordre, ça c'est bien évident. Parce que c'est pas à l'intérieur du sacerdoce, pris comme instrument. C'est pas l'intérieur du sacerdoce pris par rapport à l'Eucharistie. Par rapport à l'Eucharistie, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que Saint-Pierre pouvait dire, hein, avec beaucoup de force, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le dire, mais Saint-Pierre peut le dire, je suis pape depuis 2 ans, je suis évêque depuis 20 ans, mais l'essentiel, c'est que je suis prêtre. Et le disait par rapport à l'Eucharistie. Pour bien montrer que c'est ce qui est le point de vue premier du sacerdoce, la finalité de l'Eucharistie. C'est le mystère de l'Eucharistie qui est la raison, comme dit le Saint-Père, c'est la raison du sacerdoce. Donc c'est ce qui m'en donne l'intelligibilité. Il faut donc saisir, c'est pour ça que j'ai commencé par là, c'est du reste ce qui donne la doctrine de l'Église, de façon classique. Il faut donc, par l'Eucharistie, comprendre le sacerdoce. Par l'Eucharistie, sacrifice de la croix, comprendre le mystère du sacerdoce. Une fois qu'on a saisi ce mystère du sacerdoce, comprendre comment ce sacerdoce est de fait, dans la vue du Christ, sacrement d'ordre. Alors, voir qu'est-ce qui est impliqué dedans. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre la différence entre le prêtre et l'évêque.